La princesse de Lamballe par le vicomte de Rezay. S'il n'avait été ni Carignan ni Lamballe, la princesse eût compté encore parmi les plus séduisantes, et lorsqu'elle débuta à Versailles, elle apparut aux yeux de tous comme une nouvelle dame de beauté. Impossible, en effet, d'être plus exquise que cette merveille de charme, de vertu et de bienveillance. Marie-Thérèse de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe. Née d'une mère allemande et d'un père italien qui lui avait donné également la beauté et la grâce de leurs deux races, elle était venue en France à 17 ans pour y épouser le prince de Lamballe, fils du duc de Penthièvre, qui allait réunir sur sa tête les biens immenses du duc du Maine et du comte de Toulouse, tous deux enfants légitimés de Louis XIV et de Madame de Montespan. Avec une grâce naïve, la jeune princesse nous a raconté dans son journal que la piété d'une amie, compagne de ses mauvais jours, nous a conservé les débuts de son mariage et sa première entrevue avec son fiancé. « Un jour, dit-elle, mes parents me firent appeler, et là, en présence du roi Charles-Emmanuel III et de l'envoyé de France, on me demanda si j'aimerais devenir la compagne du prince de Lamballe. « Oui, répondis-je, il ne m'inspire pas plus de répugnance que tout autre. » Cette réponse ingénue amusa beaucoup l'assemblée. J'entrais à peine dans ma 18e année, lorsqu'on me conduisit par des chemins de fleurs à l'autel sacré qui me promettait le plus grand des bonheurs et qui trop tôt devint pour moi l'autel de mon sacrifice. Je quittai Turin. On avait tout préparé pour me recevoir avec la plus grande pompe dans l'hôtel de Toulouse et dans le palais de Rambouillet. Parmi ceux qui vinrent à ma rencontre était mon époux lui-même, que je n'avais jamais vu. Il désirait tant m'apercevoir incognito pour la première fois qu'il partit de Paris aussitôt qu'il fut informé de mon arrivée en France et s'annonça en qualité de page du prince de Lamballe. Comme il avait grandi depuis qu'on m'avait montré son portrait, j'y fus trompé et le reçus à ce titre. Mais le prince, qui me trouvait plus à son gré qu'il ne s'y était attendu, eut assez de peine à ne pas se trahir lui-même. Dans le trajet jusqu'à Paris, je fis connaître l'intérêt que m'inspirait le prétendu page. « J'espère, lui dis-je, que le prince me permettra de disposer de son page, car je l'aime beaucoup. » Quelle fut ma surprise quand le duc de Penthièvre me présenta le prince de Lamballe et que je retrouvai en lui ce même page pour lequel je m'étais senti une sorte d'inclination involontaire. Nous nous mîmes tous deux à rire et les expressions nous manquèrent pour rendre nos sentiments. C'était réellement aimé à première vue. Cette juvénile impatience du prince se présentant à sa fiancée sous la livrée d'un page et le doux émoi de la princesse en apprenant son nom, tout ce joli roman, qui paraît à peine vraisemblable, semblait pour ce jeune couple autant d'assurance de bonheur, et pourtant cette fraîche idylle ne devait pas avoir de lendemain. Moins d'un an après, le prince de Lamballe, victime de ses folies et de ses débauches, succombait dans les plus cruelles souffrances, désespéré de quitter à 20 ans cette vie qu'il avait follement gaspillée et qui aurait pu lui être si douce. La princesse de Lamballe, mariée presque enfant, épouse avant d'être femme, restait à 18 ans veuve, sans être mère et sans espoir de le devenir. Elle pleura pourtant ce mari qui ne le méritait guère, comme s'il avait été le meilleur des époux, et se retira auprès de son beau-père, le vertueux duc de Penthièvre, résolu à consacrer désormais sa vie à embellir la sienne et à adoucir son chagrin. Elle avait été le modèle des épouses, elle allait être désormais le modèle de la piété filiale. Ce fut l'amitié de la reine qui vint éclairer d'un rayon de joie l'existence de cette jeune princesse, qui n'avait eu que des larmes à verser depuis son arrivée en France. Pleine de compassion pour ses malheurs et attirée par cette nature si douce et si attachante, Marie-Antoinette suivit apprécier le charme de cette âme d'élite et en même temps trouver le chemin de son cœur. Aussi, désireuse de resserrer ses liens d'affection réciproque par une intimité de chaque jour, lui avait-elle donné la place enviée de surintendante de sa maison? Mais la tâche était trop lourde pour les frêles épaules de la princesse de Lamballe. La cabale et la jalousie eurent bientôt raison de cette jeune femme, incapable d'une pensée mauvaise ou d'un sentiment intéressé, et qui ne pouvait se résigner à soupçonner chez personne le mal que son âme irréprochable ne savait pas commettre. En butte à des rivalités et des intrigues de tout genre, sa faveur et son crédit diminuèrent peu à peu au milieu de difficultés sans cesse renaissantes. Il se vit enfin supplanté dans l'affection de la reine par une nouvelle favorite, la comtesse Diane de Polignac. Douloureusement blessée dans son amitié si tendre et si désintéressée pour sa souveraine, la jeune princesse ne se permit aucune plainte, mais elle se retira à l'écart, sans éclat et sans ostentation, ne paraissant plus guère à Versailles que lorsque les devoirs de sa charge y nécessitaient impérieusement sa présence. Retirée à Sceaux avec la marquise de Las Cases, sa dame d'honneur, et le chevalier de Florian, qui écrivait ses pastorales et ses fables, la moitié de sa vie se passait à faire des heureux autour d'elle, et c'est à la charité seule qu'elle avait voulu demander des consolations à son chagrin. La diminution de sa faveur n'avait point altéré, pour la reine, ni son amitié, ni son dévouement. Marie-Antoinette, si cruellement frappée de toutes parts, retrouva dans l'infortune son amie des beaux jours aussi fidèle, aussi courageuse, que si jamais aucun nuage n'était venu troubler leur mutuelle affection. Au moment de la fuite à Varennes, la princesse de Lamballe avait quitté la France chargée d'une importante mission à l'étranger où elle se trouvait en sûreté. Mais la nouvelle de l'insuccès du voyage et l'annonce des nouveaux périls courus par la famille royale ne firent que hâter ses préparatifs de retour. C'est en vain que la reine l'avait supplié à maintes reprises, dans des lettres touchantes, de renoncer à rentrer en France. « Ne revenez pas de grâce, mon cher cœur, lui écrivait-elle. Vous êtes une bonne et vraie amie, je le sens bien. Mais aussi, est-ce au nom de mon amitié que je vous défends de revenir ici? Adieu, ma chère Lamballe. Croyez que mon affection ne cessera qu'avec la vie. » Quelques jours plus tard, elle lui envoyait, montée en bague, une boucle de ses cheveux devenue blanc en quelques semaines, avec cette touchante inscription « Blanchie par le malheur ». Et elle ajoutait dans son laconique billet « Ne revenez pas, dans l'état où sont les affaires, vous auriez trop à pleurer sur nous. » Mais, pour la première fois, Madame de Lamballe était restée sourde aux ordres de sa souveraine, et malgré les prières de ses amis qui essayaient en vain de la retenir, elle était accourue sans retard, insouciante du danger qu'elle prévoyait, sans le redouter pour elle-même. Avant son départ, elle avait mis ordre à ses affaires et son testament, qu'on ne peut lire sans émotion, montre qu'elle n'avait oublié personne, pas même ses petits chiens auxquels elle laissait une pension de 450 livres pour qu'on prît soin d'eux jusqu'à leur mort. À la fin d'octobre 1791, elle avait quitté Aix-la-Chapelle pour revenir prendre héroïquement son service aux Tuileries, et elle ne devait plus jusqu'à la fin quitter Marie-Antoinette. Au 10 août, elle est aux côtés de la reine et lorsque la famille royale est envoyée au temple, elle demande à s'y enfermer avec elle. On ne l'y laisse pas longtemps. Dans la nuit du 20 août, Madame de Lamballe est enlevée de la prison du temple avec Madame et Mademoiselle de Tourzel pour être conduite à la force. C'était pour elle la dernière étape. Connaissant les dangers que courait sa belle-fille, le duc de Penthièvre avait tout tenté pour la sauver. Mais tandis qu'il réussissait, grâce à la connivence d'un gardien, à délivrer Madame de Tourzel et sa jeune fille, la fatalité voulut que la jeune princesse, craignant un piège, se refusa à suivre celui qui, au nom de son beau-père, venait lui apporter la vie et la liberté. Le 8 septembre, elle fut conduite devant le tribunal révolutionnaire et eut à subir un court interrogatoire qui se termina par un soi-disant acquittement. « Élargissez, madame !» avait déclaré le président. La princesse, se croyant sauvée, voulut quitter la salle, mais au moment où elle allait franchir la porte, elle se trouva en face d'un amas de corps sanglants qui obstruait le passage. Une horde de misérables était là, menaçant, qui l'accueillirent par des huées et une bordée d'injures, vomissant contre la reine les plus effroyables accusations. Et comme la malheureuse, affolée et chancelante à la vue des bourreaux couverts de sang, se refusait énergiquement à répéter après eux les indignes outrages dont ils couvraient le nom de Marie-Antoinette, l'un d'eux osa porter la main sur elle. Elle tomba à genoux, à moitié évanouie, dans une mer de sang, au milieu même des cadavres étendus sur le sol. Celui qui lui porta le premier coup fut, dit-on, un mulâtre, nommé Delorme, comblé jadis de ses bontés, qu'elle avait fait élever et instruire et que sa mauvaise conduite l'avait forcée, plus tard, à chasser de chez elle. Le misérable, ivre de vin et de carnage, s'approcha en ricanant de sa bienfaitrice et lui arracha sa coiffe légère d'un coup de pique qui l'atteignit à la nuque. Ce fut le signal du massacre. Deux des meurtriers, touchés de tant de grâce, de jeunesse et de douceur, voulaient l'entraîner pour la sauver. Ils l'avaient prise sous chaque bras. Ils tombèrent à leur tour, frappés par le mulâtre, et l'affreuse troupe d'assassins se rua sur elle à coups de sabre. Ses cheveux s'étaient dénoués dans cette horrible lutte, et il en tomba, dit-on, un billet de la reine qu'elle y tenait caché et qu'on retrouva plus tard maculé de son sang. Son attachement à Marie-Antoinette avait été son seul crime. Mais la mort n'était pas assez pour de pareilles bêtes féroces. Ce corps délicat, paré de tant de grâce et de beauté, fut dépouillé de ses vêtements, tandis que le nègre de l'orme épongeait le sang qui l'inondait pour en faire admirer la blancheur et l'exposer aux insultes obscènes de la populace. Puis, la tête fut détachée sur une borne avec un couperet de boucher, non sans avoir fait subir au cadavre les plus abominables souillures. La poitrine fut ouverte, et ce cœur, qui n'avait jamais battu que pour les plus nobles sentiments, fut arraché avec les entrailles, puis porté en triomphe. Tandis que l'un des bourreaux brandissait cette tête gracieuse et charmante, dont la longue chevelure blonde s'enroulait autour de son bras, l'un des misérables assassins s'avisa d'une proposition qui rallia tous les suffrages. « Portons-la, l'Autrichienne !» s'écria-t-il, et la bande hurlante avait marché vers le temple. Rien ne devait manquer à cette scène d'horreur. Après une halte faubourg Saint-Antoine, chez un marchand de vin qu'on força à boire à la santé du sanglant trophée déposé à même son comptoir, la rencontre d'un perruquier aperçu sur la place de la Bastille, à la porte de sa boutique, leur suggéra l'idée de parer cette tête déjà souillée de sang, de vin et de poussière. Le coiffeur tremblant fut arraché de son échoppe, et le malheureux, terrorisé par des menaces de mort, dut procéder en frémissant à la funèbre toilette. Une dernière fois, sur la tête fraîchement coupée, dont le sourire avait été si doux et le regard si tendre, les fins cheveux blonds s'enroulèrent en boucles gracieuses sous un nuage de poudre odorante, et pour remplacer le rouge des grandes parures de Versailles, l'un des meurtriers, de son doigt sacrilège, trempé dans le sang, vint aviver en ricanant les joues pâlies de son innocente victime. Puis, la sinistre dépouille, plantée au bout d'une pique, fut promenée dans Paris et portée jusqu'au temple, sous les fenêtres mêmes de la reine. Attirée par les cris de la foule hurlante au milieu desquels elle distinguait le nom de son ami, Marie-Antoinette crut, dit-on, un instant qu'on lui rendait sa fidèle compagne. Mais devant l'horreur du spectacle, elle tomba évanouie et resta en syncope pendant plusieurs heures. Vers le soir, des inconnus recueillirent les restes de ce pauvre corps souillé et pantelant qui gisait sur un trottoir, abandonné par les assassins près du Grand Châtelet sur un monceau de cadavres, et l'ensevelirent en toute hâte avec la tête qu'on avait retrouvée oubliée à la porte d'un cabaret. Le duc de Penthièvre ne survécut pas à cet horrible malheur. Des amis dévoués lui avaient porté de longues boucles de son infortunée belle-fille, et ce fut en pressant sur son cœur la blonde et opulente chevelure que, quelques mois après, il rendit le dernier soupir. L'antique hôtel de la Force, qui servit de supplément aux prisons de l'abbaye et du Châtelet, devenue insuffisante, et qui vit jadis se dérouler dans ses murs tant de scènes d'horreur, a été démoli en 1850. Mais les vieux arbres du grand parc qui entouraient l'hôpital Trousseau, rue du Faubourg Saint-Antoine, étaient longtemps demeurés debout, et c'est sous leur ombrage séculaire qu'on voyait encore récemment s'élever une petite chapelle datant du XVIIIe siècle. Il y a quelques années, l'antique futaie a été abattue. Les vieux bâtiments ont été livrés à la pioche des démolisseurs, et 6 rues nouvelles ont été tracées sur le vaste enclos. Mais la commission du vieux Paris a sauvé de la destruction la chapelle à laquelle se rattache de lugubres souvenirs. C'est là, dit-on en effet, que fut enseveli, en hâte au milieu de la nuit, par de pieuses mains, le corps décapité de l'infortunée princesse de Lamballe. Mais ce n'est qu'une tradition qu'aucun texte ne rend certaine, et l'on ignore même si c'est dans l'enclos attenant à la chapelle ou bien dans le sanctuaire que le corps a été inhumé. Cependant, si l'on ne sait pas exactement où repose Marie-Thérèse de Carignan, on connaît en revanche sa résidence préférée, l'ancien hôtel de Lamballe, qui subsiste encore, oublié et presque inconnu, sur les hauteurs de Passy. C'est entre les quais et la rue Raynouard que se trouve cette vieille demeure aux harmonieuses proportions, dont le fronton arrondi et les balustres de pierre garnissent les toitures à l'italienne. Elle se compose d'un rez-de-chaussée, d'un petit entresol surbaissé comme on les aimait au XVIIIe siècle, et d'un premier étage éclairé par de hautes fenêtres aux balcons de fer délicatement ouvragés. Sur la façade ornée de fines sculptures se lisent les initiales du comte Alexandre de la Force, qui fut le premier possesseur du domaine. L'intérieur des appartements a conservé de nombreux vestiges du passé, cheminées de marbre où s'enroulent des lys symboliques, boiseries ou trumeaux surmontés de la couronne royale. De larges baies qui éclairent le vaste salon, on découvre tout le parc qui se déroule majestueux sur les flancs de la colline, avec ses labyrinthes, ses tapis verts et ses charmilles, et surtout ses arbres admirables qui datent de près de 2 siècles. Un perron à rampe ouvragée donne accès dans les parterres, cachant dans son soubassement une vaste grotte de rocailles. C'est dans cette mystérieuse retraite que bien souvent, sans doute, Madame de Lamballe dut venir s'asseoir et rêver. Il semble qu'à chaque pas, on évoque son image, et partout, dans ce parc solitaire, le souvenir est resté vivant de cette douce princesse, dont la tête blonde et souriante, hissée sur le haut d'une pique, devait devenir, dans un jour tragique, le hideux et sanglant trophée d'un triomphe de massacreur. Ainsi s'achève La princesse de Lamballe par le vicomte de Rezay.